Radio Okapi.
Grâce à Mzati Massanzi à la présentation de votre journal.
Au sommaire de ce journal, 7 creuseurs artisanaux morts asphyxiés hier dans une mine d'or à Mungwalu dans la province de l'Ituri. C'est à la suite d'une forte pluie qui s'est abattue sur la région. L'opposant Seth Kikuni transféré au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe après sa détention de plus de 10 jours par l'ANR. Il est accusé de plusieurs actes contre l'autorité de l'État congolais, notamment la propagation de faux bruits. L'Association des professeurs de l'Université des sciences de l'information et de la communication APUSIC exprime son indignation face au revirement du comité de gestion de l'UNICIC. L'APUSIC sollicite ainsi l'intervention de la ministre des tutelles. Pour en parler, nous recevons Adlar Obulopwes, secrétaire de la délégation syndicale de l'UNICIC. Voilà tout pour les titres. Avant d'aller plus loin, d'abord cette nouvelle. La ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie, Thérèse Kayikwamba Wagner, conduit ce samedi la délégation congolaise à Luanda où se déroule la réunion ministérielle dans le cadre du processus de Luanda. Cette réunion vise notamment à poursuivre les discussions sur les points restés en suspens les 20 et 21 août dont l'harmonisation a été effectuée par les experts lors de la réunion tenue à Rubavu le 29 et 30 août dernier. Mesdames et messieurs, bonsoir. À Ituri, 7 creuseurs artisanaux sont morts dans une mine d'or appelée Makala à Mungwalu, commune rurale située à 85 km au nord de la ville de Bunia, dans les territoires de Djougou. Selon des sources locales, les victimes étaient coincées par les eaux de pluie qui ont bloqué l'entrée de la mine. La société civile de Mungwalu indique que les 7 corps ont été remontés en surface hier. Martial Kizabiamongo nous appelle de Bunia.
Les drames survenus jeudi au cours d'une forte pluie qui s'est abattue sur cette région minière pendant plusieurs heures. La société civile de Mungwalu indique que les 7 orpailleurs ont été surpris à plein travail par la montée soudaine des eaux qui s'érissaient des collines avoisinantes, bloquant ainsi la porte des sorties de la mine appelée Makala. Privés d'oxygène, ils sont morts sur place. Chérubin Kokodilaou, le président de la société civile de Mungwalu, explique.
Cela étant à l'intérieur, ils ne savaient pas ce qui se passait à l'extérieur. Étant sur le chemin de sortie, ils ont trouvé que le niveau d'eau avait augmenté. Et à l'intérieur, là-bas, il n'y a pas assez trop d'espace. Ils se sont retrouvés 7 personnes coincées à un même endroit avec l'eau qui a bouché la sortie. Ils ont souffert des manques d'oxygène et c'est comme ça qu'ils sont morts par asphyxie.
Depuis le début de cette année, 7 accidents mortels sont déjà enregistrés dans des mines d'or dans la région, provoquant la mort d'au moins 15 orpailleurs. Bunia, Martial Kizabiamongo, Radio Okapi.
Autre région, autre drame. 3 morts, tous des enfants, 2 disparus, dont un enfant et 16 rescapés. C'est le bilan du naufrage d'une embarcation dans la soirée des jeudis sur la rivière Lukuga, dans la ville de Kalemi, province du Tanganyika. Dans un communiqué de presse publié ce vendredi, le gouvernement provincial annonce que les recherches se poursuivent pour retrouver les disparus. Des précisions à Kalemi avec Paul Mounanga.
Le naufrage s'est produit vers 19h ce jeudi. La pirogue motorisée transportait 21 personnes plus les membres de l'équipage et la marchandise, indique le commissaire lacustre de la ville de Kalemi. Ces bottes provenaient du village Kinzonvi à 35 km de Moba vers la localité de Moliro. Arrivé à Kalemi, il percute un pilier en béton du pont Lukuga. La pirogue s'apprêtait à accoster lorsque le moteur est tombé en panne. Les communiqués de presse précisent que les causes du naufrage sont la panne du moteur et la surcharge. Notons parmi les rescapés, 9 hommes et 6 femmes, indiquent les communiqués. Le gouvernement provincial du Tanganyika rappelle l'importance de respecter les règles de la navigation. Il s'engage à prendre des mesures nécessaires pour éviter que pareils incidents ne se reproduisent à l'avenir. Rappelons qu'au mois d'avril dernier, le MV Benita avait fait naufrage sur le lac Tanganyika tuant plusieurs personnes. À cette période, le gouvernement provincial avait pris des mesures pour sécuriser la navigation sur le lac Tanganyika. Kalemi, Paul Mounanga, Radio Okapi.
Pendant ce temps, dans la province d'Ikwilu, des cas de vindictes populaires sont devenus récurrents au village Idiofa Balabala dans les territoires d'Idiofa, alerte de la société civile locale. Au moins 4 cas de meurtre sont enregistrés pour une période de 3 mois dans ces mêmes coins. La même source indique que le dernier cas remonte à mercredi dernier où un homme a été tué par ses propres neveux après la mort de sa nièce qui était malade. Le coordonnateur de la nouvelle société civile locale, Arsène Kassiama, invite la population à bannir cette pratique qu'il condamne fermement. Irène Mbomalozolo pour plus de détails.
Selon les sources de la nouvelle société civile du territoire du Diofa, les victimes de ces cas de vindictes populaires sont souvent les personnes de troisième âge qui sont accusées de sorcellerie. Ces dernières sont tuées soit par la population, soit encore par les membres de leur propre famille. Le dernier cas de lynchage est survenu mercredi dernier au village Idjofa Balabala, dans le secteur de Mosanga Idjofa, situé à quelques kilomètres de la cité du Diofa, chef-lieu du territoire. Il s'agit d'un homme qui a été lâchement abattu en forêt par ses neveux à la suite du décès de l'une de ses nièces. Arsène Kassiama, coordonnateur de cette structure citoyenne qui condamne cette pratique, explique les faits.
Un papa qui a été lapidé en forêt suite au décès d'une de ses nièces était malade dans l'église et le pasteur aurait même dit que cette maladie est due à son oncle. Quand la fille est décédée, le frère de cette jeune fille sont allés suivre leur oncle en forêt et on l'a vraiment tué à bout portant avec des coups de machette. Nous devons éviter la justice populaire parce que personne n'a prouvé que cela a été dû à ceci, à cela.
Pour l'instant, les présumés auteurs de ces meurtres sont en fuite et les pasteurs aux arrêts ajoutent Arsène Kassiama. Irène Mboma, Bandundouville, Radio Okapi.
Et au Nord Kivu, un calme relatif s'observe ce samedi sur la ligne des fronts dans la zone de Bwirimana, chefferie de Baoundé, territoire de Masisi. C'est après des violents combats les jeudi derniers. Des combats qui ont opposé les rebelles M23 à l'armée congolaise et ses alliés, les volontaires pour la défense de la patrie VDP Wazalendo. C'était autour des positions sur Plomba, le village Bwirimana. Les rebelles M23 cherchant à reprendre le contrôle des positions FARDC sur ces hauteurs stratégiques sans pour autant les reconquérir. Des sources concordantes dans la zone affirment qu'aucun tir n'a été entendu ces deux derniers jours. Cependant, la tension reste palpable parmi les populations de Bwirimana et ses environs où les activités économiques et scolaires restent perturbées, toujours selon nos sources. Comme annoncé au sommaire, l'ex-candidat à la présidentielle de 2018 et président du parti politique Piste pour l'émergence, Seth Kikuni, a comparu hier dans la soirée devant le parquet près la cour d'appel de Kinshasa. Il a été auditionné en présence de ses avocats. D'après son chargé de communication, il est reproché à Seth Kikuni plusieurs actes contre l'autorité de l'État congolais. Gabriel Moussafiri parle d'un acharnement. On l'écoute dans ses propos recueillis par Étienne Lissumbo.
Président Seth Kikuni a été transféré hier dans la soirée au parquet près la cour d'appel de Kinshasa Gombe où il a été auditionné en présence de ses avocats. Et les griefs qui sont retenus contre lui, il s'agit notamment de la propagation de faux bruits et puis de l'incitation à la désobéissance civile. Après l'audition, il a été, n'est-ce pas, retourné à l'ANR où il est détenu, tout en étant à la disposition du parquet. Donc voilà, nous au niveau du parti Piste pour l'émergence, nous qualifions cela d'un acharnement contre notre président Seth Kikuni, parce que sa détention, vu les griefs qu'ils ont retenus contre lui, normalement il ne devrait pas être enlevé et puis passer 10 jours à l'ANR. En tout cas, nous exigeons sa libération immédiate et sans condition, parce que là il s'agit vraiment de l'acharnement. On lui reproche d'avoir tenu des propos d'incitation à la désobéissance lorsqu'il était à Lubumbashi.
Accompagner Martin Fayulu pour bâtir un Congo digne, c'est l'un des objectifs de la nouvelle plateforme dénommée Vision Fayulu. Selon les initiateurs, il s'agit d'une structure des réflexions au sein du parti politique SID qui va militer pour la protection de la patrie qui est en danger. Alison Kafina, qui en est le coordonnateur, nous explique dans cet extrait sélectionné par Étienne Lissumbo.
Soutenir d'abord la vision du président Fayulu, l'accompagner au pouvoir en 2028 et aussi renforcer l'implantation de notre parti politique SID dans des coins non implantés sur toute l'étendue nationale. Vous avez vu ici que nos cordons des différentes provinces sont ici, et de partout ils sont venus juste pour la sortie officielle de notre structure telle que nous l'avions fait ici et avec notre manifeste de Kisangani. Là où c'est bien positionné la vision du président Fayulu, nous allons maintenant mobiliser tous les Congolais et d'adhérer à cette vision et aussi de comprendre c'est quoi la vision du président Fayulu et comment est-ce que les Congolais peuvent avoir l'idée de ce que Fayulu propose pour les changements dans ces pays.
Rendons-nous dans la province du Maniema où nous apprenons que plus de 30 femmes qui ont accouché sont retenues à l'hôpital général de référence de Kindu parce qu'elles n'ont pas honoré leur facture. La population se demande à cet effet, à quand les débuts de la gratuité de la maternité dans cette province? Des passages dans cette institution hospitalière, le sénateur Salomon Idi Kalonda a pu décanter la situation pour quelques femmes vulnérables. Des explications à Kindu avec Florence Kizalunga.
C'était lors de sa visite au bâtiment du bloc opératoire moderne construit et équipé par Moïse Katumbi que Salomon Idi Kalonda Dela a eu pitié de ces femmes et a payé leurs factures, comme témoigne ici Zouena Sabiti.
Je ne m'attendais pas à coucher par césarienne. Je remercie Salomon, vient de payer ma facture de l'hôpital. Je me demandais comment j'aurais l'argent pour quitter l'hôpital, mais Salomon vient de m'aider. J'ai dit merci.
Le médecin directeur, Dr Fambara Ramazani, affirmait que avant cette dotation, l'hôpital provincial manquait un tel cadre bien équipé pour bien prendre en charge le malade.
Il nous a offert un bloc opératoire moderne avec le matériel de dernière qualité que l'hôpital n'en avait pas. Un besoin très important parce que ça résout beaucoup de problèmes. On avait des difficultés pour les interventions de fistules et d'autres cas comme le bec de lièvre. Maintenant, aujourd'hui, nous faisons toutes les interventions parce qu'il y a même des bistouris électriques qui sont là. Donc, on peut faire toutes les interventions. Les tumeurs, on peut les opérer dans ces blocs-là.
Le médecin directeur fait appel aux autres bienfaiteurs car l'hôpital en a besoin. Kindu, Florence Kizalunga, Radio Kapi.
Vous écoutez Radio Kapi, la fréquence de la paix dans la province du Kassai Oriental. Ici, les travailleurs de l'entreprise Énergie du Kassai, Enerka, qui commercialise le courant électrique produit par la centrale hydroélectrique de Tchiala, ont déclenché un mouvement de grève hier. Ces agents sont ceux qui travaillent au niveau de la direction générale des NRK à Mbujimayi. Ils réclament les salaires de 4 mois auprès de l'entreprise tchèque qui a signé le contrat de partenariat avec l'entreprise NRK pour la réhabilitation et la modernisation de la centrale hydroélectrique de Tchala. Pour manifester leur mécontentement, ces agents ont coupé l'énergie électrique à la station Albert de Nyongolo. C'est la cabine qui accueille l'électricité de Tchala. Les syndicats des travailleurs, les NRK et MIBA, ont à cet effet été invités d'urgence par le vice-gouverneur et gouverneur à l'intérim pour trouver des solutions à ces problèmes. Au terme de cette rencontre, Febata Ntumba, président de la délégation syndicale de la MIBA, s'est exprimé au micro de notre collègue Esther Ndalafina.
C'était à cause de ces débrayages du côté NRK fait par son personnel qui n'est pas payé environ 5 mois, faute d'un contrat dont l'exécution fait souci. C'est ainsi que ces travailleurs-là aujourd'hui, se voyant dans l'impossibilité de retourner leurs enfants sur les bancs de l'école, comment vivre même dans leur toit, ils ont débrayé, ils ont coupé les courants sur toute la ville et tout le monde a été surpris. Or, c'est leur droit de vivre. C'est ainsi que l'autorité, ayant appris, n'a pas tardé et nous a invités pour une concertation, laquelle nous saluons, car dans des conclusions, il est prêt à ramener à la table toutes les parties prenantes dans cette action. Il y a l'AMIBA, il y a l'ENERK, il y a les syndicats, il y a le SECO, afin de trouver une solution pérenne. Mais nous, de notre côté, c'est sensibiliser notre personnel à rétablir d'abord les courants, car toute la ville est pénalisée. Nous avons des hôpitaux et ça nous fait mal. Nous avons des chambres froides et confort. L'économie même de la province risque d'appâtir.
Revenons ici à Kinshasa. Les agents et cadres de la radio-télévision nationale congolaise RTNC ont émis un préavis de grève pour demander au gouvernement de respecter le barème salarial et l'ajout de 25% des salaires convenus de commun accord avec la délégation syndicale depuis 2021. Si ces engagements n'y sont pas pris en compte, ce préavis laissera place à l'arrêt total des programmes, affirme René Kalonda, président de la délégation syndicale de cet organe de presse publique. Déclaration faite ce vendredi à Radio Okapi au sortir de l'audience avec le ministre de la Communication et des Médias, Patrick Muyaya. Il s'est confié à Tati Mapoko.
Il y a beaucoup de problèmes à la RTNC concernant les agents, mais nous avons commencé d'abord pour ces débits avec deux problèmes majeurs, notamment celui du barème salarial signé par notre ministre des tutelles depuis 2021. Jusqu'à ce jour, malgré que la RTNC, la délégation syndicale, bien sûr, accompagne toujours l'employeur pour présenter, défendre ses budgets au niveau de la conférence budgétaire depuis 2022, 2023 et même cette année en 2024, malheureusement, le ministre du budget résiste toujours pour signer ce nouveau barème salarial. Et le deuxième problème, c'était celui de 25% du barème salarial. On nous paye déjà 75%. Les 25%, le gouvernement avait choisi de payer ça sous forme d'une prime qu'ils ont appelée prime de motivation pour les personnels. Malheureusement, aujourd'hui, nous totalisons 15 mois d'arriérés de cette partie du salaire. Regardez les conditions dans lesquelles travaillent nos agents pour faire fonctionner fonctionner cette télévision 24 heures sur 24 heures dans les conditions très difficiles. On a lancé une série d'activités qui pourraient terminer par l'arrêt total des diffusions et des transmissions des programmes.
Actualité internationale.
L'annonce est tombée hier dans la soirée. Le gouvernement du Soudan du Sud, lors d'une réunion de la présidence composée du président Salva Kiir et de ses 5 vice-présidents, a décidé de reporter les élections de 2 ans. La Russie et l'Ukraine ont annoncé aujourd'hui avoir procédé à l'échange de 206 prisonniers, dont des soldats russes capturés lors de l'offensive ukrainienne dans la région frontalière des Kursk.
L'invité.
Dans un communiqué publié lundi dernier, l'Association des professeurs de l'Université des sciences de l'information et de la communication à PUSIC exprime son indignation face au revirement du comité de gestion de l'UNISIC. Cette organisation syndicale appelle la ministre des tutelles à s'impliquer pour rappeler au comité de gestion Kambaï son obligation de respecter les dispositions réglementaires en vigueur. Pour en parler, nous recevons Adlar Obulokwes, chef de travaux et secrétaire de la délégation syndicale de l'UNISIC. Il s'entretient avec Blaise Shindani Kambala.
Bonjour monsieur Obulokwes.
Bonjour.
Que reprochez-vous exactement à l'actuel comité de gestion?
La délégation syndicale de l'UNISIC reproche à l'actuel comité de gestion une gestion frélatée de tous les domaines de l'UNISIC, le domaine académique, le domaine administratif, le domaine financier, et la gouvernance en général est mauvaise. Et cette gestion mauvaise s'est cristallisée autour de 3-4 faits importants. D'abord, le recrutement cette année, en quelques 2 mois, de plus de 100 assistants et assistants de recherche ou des cours sans respecter aucune norme. Également, le recrutement des gens au 3e cycle pour la formation doctorale qui s'est fait en dehors de normes, sans compter d'autres revendications du personnel, notamment le pléthore qui existe, notamment les cours qui ne se déroulent pas de manière qu'il faut, notamment la propreté même, notamment l'équipement qui ne suit pas, en fait, pour nous, tous les compartiments de la vie de l'institution UNISIC sont aujourd'hui au rouge et nous reprochons cela au comité de gestion qui, depuis 2 ans, n'a fait que détruire, ramener cette institution à son plus bas niveau.
Voilà, dans un communiqué publié le 5 septembre, le recteur Kambaï Boacha indique qu'il a convoqué une réunion de concertation et d'harmonisation entre les comités de gestion et la délégation syndicale. Et vous avez décliné l'invitation. Qu'est-ce qui a motivé votre décision?
Nous avions écrit à monsieur le recteur pour lui dire que dans la situation des crises que nous avons, le communiqué n'est pas la voie qui convient. Ce n'est pas le bon outil parce que le communiqué, il est directif. Nous faisons la communication. Dans la situation des crises que nous avons, il faut une invitation qui mette le partenaire ensemble, qui nous invite à une réunion telle que cela nous a été recommandé depuis le 9 août par la ministre de l'enseignement supérieur et universitaire. Au lieu de ça, il envoie un communiqué. Nous lui avons dit que nous n'allons pas venir à cette réunion si ce n'est pas une invitation formelle, et cette invitation était assortie de quelques préalables. Parmi les préalables, que ça doit être une réunion entre le comité de gestion et la délégation syndicale. On ne veut pas qu'il y ait autour des parasites, des personnes qui viendront pour influencer. Non. Nous leur avons dit que cette réunion devait se terminer, par exemple, par un communiqué conjoint qui doit être signé le même jour à la fin de la réunion, reprenant le point de convergence et le point de divergence entre les 2 délégations qui allaient se réunir. Au lieu de répondre à ces préalables, monsieur le recteur a estimé que le fait que nous ayons posé les préalables était un refus, alors qu'il sait très bien que nous avons écrit à plusieurs reprises pour envoyer les revendications du personnel. Monsieur le recteur n'a jamais daigné répondre à aucune de ces lettres, ni à aucune de ces revendications. Il ne l'a jamais fait. S'il en a, qu'il vous appelle, qu'il vous donne la preuve. Mais nous avons la preuve, nous, d'avoir écrit. Et donc, pour nous, nous estimions qu'après avoir fait tout cela, il n'y avait plus de confiance envers lui, nous devions poser des préalables. Il n'a pas accompli les préalables et il a conclu que c'était un refus, alors que quand nous allions vers lui, il ne nous répondait pas, il faisait la sourde oreille. Voilà pourquoi nous disons que pour nous, le processus continue, nous continuons à être pris au dialogue. S'il remplit les préalables qui lui ont été posés, il n'y a aucun souci, nous allons avoir la rencontre qu'il souhaite qu'on puisse avoir. Tant qu'il n'y aura pas la réponse à ces préalables, pourquoi vous voulez qu'on puisse dialoguer avec quelqu'un qui refuse de pouvoir accepter de répondre aux revendications du personnel pour lequel il a été engagé et qu'il a désavoué depuis le 6 août.
Alors dites-nous, monsieur le secrétaire, quelle solution envisagez-vous pour sortir l'UNICIC de cette crise?
La solution à envisager, il n'y en a pas trois, il n'y en a pas quatre, parce que dans les autres universités, lorsqu'il y a eu des problèmes, les comités de gestion ont été débarqués. La solution, c'est celle que demande le personnel, c'est que le comité de gestion actuel soit mis de côté afin qu'on dote cette institution d'enseignement supérieur de grande renommée, cinquantenaire aujourd'hui, qu'on dote cette institution d'un comité de gestion à la mesure, à la taille de ce que nous représentons en termes du personnel académique. Nous avons beaucoup de professeurs, en termes des étudiants, de qualité que nous avons. Voilà, qu'on nous dote d'un comité de gestion qui soit à mesure de relever les défis, de développer cette institution. Le comité de gestion qui est là, l'a ramené à au moins 15-20 ans plus loin, parce que la gestion n'est pas bonne, justement.
Obou Lokwes, secrétaire de la délégation syndicale du personnel de l'UNICIC, merci beaucoup.
Je vous en remercie, moi.
Notre invité répond aux questions de Jordan Blaise Shindani Kambala. Ce journal touche à sa fin. Merci à Jude Mister Bilanda pour la coordination et Pierre Diassinoa pour la mise en onde. Grâce à Mzati Masanzi était à la présentation. Merci aussi à vous, fidèles auditeurs, pour votre sympathique attention.